D'abord et avant tout, avant d'entendre la voix de Raphaël, nous allons entendre celle de M. Donald Trump, mais pas dernièrement. Voici ce qu'il déclarait en 2011. Il n'était pas encore officiellement un politicien. Et attention, ça peut écorcher vos oreilles.
I said, somebody said, well, what would you do? What can you do? So easy. I drop a 25% tax on China. And, you know, I said to somebody that is really the messenger. The messenger is important. I could have one man say, we're going to tax you 25%. And I could say another, listen, you motherfuckers, we're going to tax you 25%.
Alors, c'était Donald Trump avec un langage un peu grossier. 2011, Raphaël, il flirtait avec la possibilité de se présenter contre Barack Obama à l'élection 2012.
En effet, Paul, et ça te montre que pour tous les changements de position spectaculaires qu'a connu Donald Trump au courant, non seulement de sa carrière politique, mais même de sa très jeune présidence, il y a certains enjeux fondamentaux dans lesquels il croit vraiment. Et justement, le protectionnisme, le nationalisme économique et surtout une attitude beaucoup plus robuste en matière de commerce face à des pays comme la Chine, ça, c'est dans son ADN. On l'entendait justement dans un de ses premiers vrais discours politiques en 2011. Et ça, ça n'a pas changé. Ce qui est remarquable, par contre, quand justement tu entends ce discours-là, c'est le degré, en fait, je dirais, de simplicité avec lequel il abordait les questions commerciales. Et on l'a entendu, en fait, dans l'extrait que tu as fait jouer. Il disait, c'est tellement simple. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'imposer des tarifs de 25% sur les produits chinois, nos problèmes vont être réglés.
Et il avait dit ça il y a 7 ans.
Il y a 7 ans, Paul.
Donc, au moins, on peut y donner ça. Il n'a pas changé d'idée là-dessus.
Mais non seulement il n'a pas changé. Écoute, il a carrément implanté le pourcentage exact. On ne parle pas juste de politique générale. Imposer un tarif de 25% à certains produits chinois, c'est exactement ça que son administration a annoncé qu'elle allait faire. Par contre, où ça se garde, c'est que et là, le monde entier est en train de le voir, notamment le monde boursier. C'est pas aussi simple que ça parce que, on le sait bien, c'est un vieux principe de physique. Chaque action entraîne une réaction et réaction, il y a de la part des Chinois. Donc, on a annoncé du côté américain qu'il allait avoir une centaine de produits chinois qui allaient faire l'objet de tarifs douaniers. Du côté chinois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a répliqué, je te dirais, en deux volets. Un premier volet où on est allé de façon plus conservatrice, plus prudente. On a identifié certains produits, des fruits, du vin américain qui pourraient peut-être éventuellement faire l'objet de tarifs douaniers. Mais là, au courant des dernières heures, on a commencé à sortir des produits qui pourraient faire non seulement économiquement, mais politiquement beaucoup plus mal aux États-Unis et à Donald Trump particulièrement, notamment
l'automobile
et le fameux soya. Là, les gens vont peut-être se dire, pourquoi le soya, en quoi est-ce que c'est si gros que ça? Bien, deux choses, premièrement. D'un point de vue économique, le soya, c'est 12 milliards de dollars annuels en exportation américaine à la Chine. C'est en train de dépasser, en fait, le maïs au niveau des plants aux États-Unis. Et 8 des 10 États qui sont les plus grands producteurs de soya, et évidemment, en bonne partie, c'est pour l'exportation, c'est à des fins d'exportation, ont appuyé Donald Trump. Un 9e, le Minnesota, est passé à 2 points de lui donner une victoire en 2016. Autrement dit, ça pourrait faire politiquement mal à Donald Trump parce que ça pourrait potentiellement faire économiquement, financièrement mal à certains de ses électeurs.
Est-ce que tu crois que chez Boeing, à Everett, dans l'État de Washington, au nord de Seattle, on n'est pas nerveux en ce moment? Parce que si la Chine décide de ne pas acheter des Boeing, ils vont acheter des Airbus.
Ben, Paul, je fais le lien tout de suite avec un autre petit flashback. Celui-là, pas 2011, mais 2015. On va entendre, si tu le veux bien, un des rivaux principaux de Donald Trump lors des primaires républicaines, Jeb Bush.
There'll be retaliation.
Yeah.
So the soybean sales from Iowa, entire soybean production goes, the equivalent of it goes to China. Or how about Boeing right here within a mile? Do you think that the Chinese, if they had a 45% tariff imposed on all their imports, wouldn't retaliate and start buying Airbus? Of course they would. This would be devastating for our economy.
Ben voilà, je pense exactement comme Jeb Bush.
On aura au moins appris ça, Paul, aujourd'hui.
Au moins. Alors, on va passer rapidement à nos autres sujets, bon, parce qu'il y en a beaucoup. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, devant le Congrès la semaine prochaine, il passe devant les deux chambres.
En effet, Paul. Ben écoute, là-dessus, on va être bref. Je sais que Mathieu Roy t'en a parlé tantôt. Je crois que Pierre-Yves McSween va t'en parler après ma chronique. Deux choses, premièrement. D'un point de vue politique, on devrait s'attendre à un spectacle. Parce que non seulement il passe devant les deux chambres, donc la Chambre des représentants et le Sénat, mais il il va avoir des politiciens des deux côtés, autant du côté républicain que du côté des démocrates qui vont vouloir surfer sur la notoriété de Zuckerberg pour se donner de la publicité à eux-mêmes, parce que c'est une très, très grosse affaire. Donc, on suit ça. Et deuxièmement, Paul, quand on parle de Mark Zuckerberg, on parle évidemment d'un géant d'un point de vue économique, d'un point de vue de la notoriété. On parle en fait de quelqu'un qui a donné son nom à l'hôpital général de San Francisco. Écoute, hier, quand il y a eu la fameuse fusillade,
oui,
qui a eu lieu à YouTube,
c'est vrai,
les survivants, les victimes ont été transportées à l'hôpital Zuckerberg de San, oui, Francisco. Écoute, même toi, Paul, t'as même pas ton nom qui donnait un hôpital. Imagines-tu comment?
Non,
il faut
non,
être
non.
une célébrité.
Il faut être une célébrité. C'est plus que d'avoir une étoile dans le trottoir sur Hollywood Boulevard.
Exactement. Donc,
alors,
ça va être gros.
Un trio de sénateurs canadiens, j'ai parlé d'ailleurs à Claude Carignan tout à l'heure, ils venaient de rencontrer Jeff Sessions avec Pierre-Hugues Boisvenu et une sénatrice de la Saskatchewan. Ils sont allés sonder le terrain pour savoir comment Washington prend ça, la venue de la légalisation du cannabis juste au nord, c'est-à-dire au Canada, ici, ça s'en vient. Et ils prennent pas ça bien. Enfin, M. Sessions est très nerveux.
Ben, ils le prennent carrément mal. Ils la trouvent pas drôle. On va pas mâcher les mots, Paul. Et ce qui est remarquable dans tout ça, c'est que la question du cannabis, la légalisation du cannabis au Canada, tu as eu les provinces, tu as eu des psychiatres, des médecins, de simples électeurs. Là, c'est au tour du gouvernement américain de dire, écoutez, vous êtes en train de faire ça tout croche, trop vite, c'est pas réfléchi. Et l'approche, ou plutôt la réaction, la non-réaction du gouvernement canadien depuis à peu près le tout début là-dedans, c'en est une d'extrême passivité et de minimisation. De presque toujours dire, ben non, il n'y a rien là, il n'y aura pas de problème, alors que là, c'est à peu près tout le monde qui est directement ou indirectement interpellés, qui sont en train depuis des mois de dire, regardez, ça va amener des problèmes potentiels sérieux.
Ah, c'est là, sûr que traverser la frontière, c'est déjà de plus en plus difficile, on l'a remarqué,
oui,
autant à l'aéroport que par la route. Là, ça, on va le savoir dans les prochaines heures parce que le Border Patrol doit se prononcer en disant, voici comment on va réagir.
Et on verra aussi la sortie pour avoir parlé à quelqu'un qui est très au fait, très, très au fait de la rencontre entre les sénateurs et Jeff Sessions. On devrait avoir une sortie demain de la part du trio de sénateurs canadiens.
Ouais.
Donc, on se garde au courant là-dessus et on risque d'en parler demain.
Oui.
Mais juste très, très rapidement, très rapidement.
Les 50 ans oui, de la mort de Martin Luther King.
Luther King, exactement. Je sais que Lise Ravary en a parlé tantôt. Je veux juste te mentionner quelque chose. On se parlait la semaine dernière lorsqu'on a souligné le 50e anniversaire ou plutôt le décès, de la femme qui était derrière la décision Brown contre Board of Education qui avait aboli la ségrégation aux États-Unis, qu'à l'époque, c'était à peu près la moitié des Américains qui étaient pour la ségrégation raciale dans le milieu scolaire. Eh bien, je suis allé aux archives encore aujourd'hui dans le contexte du 50e anniversaire de la mort de Martin Luther King et écoute ceci, Paul. En 1966, c'était à peine le tiers, 32 % des Américains qui avaient une opinion favorable de Martin Luther King. 50 ans plus tard, un peu moins de 50 ans plus tard, en fait, en 2011, c'était monté à 94 % et un autre sondage qui avait été publié en 1968, tout juste après sa mort, dans lequel on demandait aux Américains de nommer la première réaction qui leur venait lorsqu'ils pensaient au décès de Martin Luther King. Eh bien, pour 31% des répondants à ce moment-là, il y a 50 ans, la première réaction, c'était de dire qu'ils avaient couru après. Comme quoi, Paul, les choses et surtout l'opinion publique peuvent changer en pas tant de temps que ça. Et là, on en a un autre exemple absolument spectaculaire.
Merci et à demain.